Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut dire avec moi la conquête des promesses? On est en train d'atterrir sur notre enseignement. Et je suis dans la joie parce que depuis plusieurs semaines, on a appris beaucoup de choses. J'ai décidé de les mettre en pratique parce que je veux expérimenter ce que le Seigneur nous a enseigné. La chose la plus dangereuse serait de recevoir une parole qui, sur le coup, nous fait du bien. Et après, on l'oublie. Dans la parabole de toutes les paraboles qu'on appelle la parabole du semeur, Jésus-Christ nous raconte cela. Il dit, le semeur est semblable à quelqu'un qui jette une semence et les oiseaux viennent y mangent, etc. etc. Et après, quand il explique, il dit qu'il y a celui qui entend la parole, mais avant qu'il la comprenne, le diable vient et il l'enlève. Il y a celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, mais parce qu'il n'a pas de racines, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas suffisamment mature, il ne porte pas de fruits. Ensuite, il y a celui qui entend la parole, il est conscient que la parole est une bonne chose pour lui, mais les soucis de la vie, les difficultés financières, les difficultés familiales, les problèmes avec les autres, etc., les soucis personnels, émotionnels, font que la parole ne porte pas de fruits. Et enfin, il y a celui qui entend la parole. Il dit, il est semblable à celui qui reçoit la semence et la semence tombe dans une bonne terre. Elle tombe dans une bonne terre, dans un cœur, il dit dans le livre de Luc, un cœur honnête et bon. Et il porte du fruit pour 10, pour 50, pour 100, etc. etc. Et Jésus-Christ nous dit qu'il faut que chacun d'entre nous soit comme celui-là, qu'il entende la parole et qu'il porte beaucoup de fruits. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, à la fin de cette année, on puisse avoir porté du fruit, avoir avancé, avoir grandi avec le Seigneur. Et que nous soyons ici, que nous soyons à la maison ou que nous soyons à un autre endroit, le plus important, c'est la parole qu'on entend du Seigneur et qu'on la mette en pratique. Parce que celui qui entend la parole, Matthieu 6 ou 7, je crois, est semblable à celui qui bâtit une maison sur des bons fondements lorsqu'il la met en pratique. Le vent a soufflé, la tempête a soufflé et la maison est restée debout. Mais celui qui ne la met pas en pratique, pourquoi Jésus-Christ dit qu'il est semblable à une maison qui s'effondrera lorsque la tempête soufflera? C'est parce que tout simplement, le temps viendra où la tempête soufflera. Oh oui, le temps viendra où la tempête soufflera. Et lorsque la tempête soufflera, il faudra que tu sois solide. Parce qu'il y a des événements dans la vie, quand ils arrivent, tu n'as même plus la force de prier. Que ce soit un malheur, que ce soit une porte qui s'est fermée, etc. Et ce jour-là, tu vas te souvenir que, si je savais, j'aurais peut-être dû m'y prendre plus tôt, j'aurais peut-être dû prier, j'aurais peut-être dû faire ceci ou cela. Et ma prière, c'est que toutes les paroles qu'on entende, qu'on aille à la maison, qu'on y réfléchisse, et qu'on prenne des notes, et qu'on se dise à soi-même, alors qu'est-ce que je peux changer dans ma vie là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je ne faisais pas hier que je peux faire aujourd'hui? C'est comme ça qu'un chrétien doit fonctionner parce qu'il doit toujours aller de progrès en progrès avec le Seigneur pour qu'il devienne mature. Dans le livre de Jean, il parle des enfants, des jeunes gens et des pères. Et ce que Dieu aspire, ce que Dieu veut, c'est que nous devenions tous des pères. Les pères, ce sont ceux qui peuvent prendre d'autres personnes derrière et les coacher, les tirer, faire des disciples, etc. Dieu n'aime pas ceux qui restent tout le temps des enfants. Et Jésus-Christ nous le montre tout le temps. Luc 13, chapitre 13, il dit, le royaume est semblable à un, à un au propriétaire d'une vigne qui vint chercher du fruit auprès de sa vigne et qui n'en trouva pas. Et il dit, mais pourquoi cette vigne ne porte toujours pas de fruit au bout de 3 ans? Coupe-la, car elle occupe la terre inutilement. Et le vigneron dit, non Seigneur, laisse-la encore une année, je vais y mettre du fumier et peut-être que l'année prochaine elle portera du fruit. Amen. Oh oui. Et quand il dit je vais y mettre du fumier, je l'ai déjà dit ici, le fumier c'est quelque chose qui ne sent pas bon. Le fumier ce sont les excréments de chevaux et d'animaux, etc. Et on prend ça et on badigeonne la vigne avec ça pour qu'elle porte du fruit. Et le fumier, ici Jésus-Christ est en train de nous enseigner que ce sont les difficultés que l'on rencontre dans la vie. Et certaines difficultés, certaines épreuves peuvent venir du Seigneur. Et pourquoi le Seigneur envoie ces épreuves-là? C'est tout simplement parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Quand Dieu voit que tu ne grandis pas, que tu ne fais pas d'efforts, il va t'envoyer des épreuves, il peut t'envoyer des situations simplement pour te faire comprendre qu'il faut que tu changes. Parce que j'attends quelque chose de toi. Tu as peut-être un appel sur ta vie, tu es peut-être appelé à un grand ministère, tu es peut-être appelé à faire de grandes choses dans ce pays, mais parce que tu dors, tu ne passes pas du temps à aller écouter le Saint-Esprit pour qu'il te communique ce qu'il attend de toi, tu te préoccupes plus des problèmes de la vie, de ta carrière professionnelle, de tes amis, de ta famille, etc. Mais Dieu arrive en 10e position dans ta vie. Dieu, il dit qu'il est un Dieu jaloux, il veut toujours la première place. Il veut toujours être en premier, même avant ton mari, même avant tes enfants. Dieu dit, c'est moi le premier. C'est pour cela que celui qui doit suivre Jésus doit apprendre à renoncer à lui-même. Mais même si on croit que c'est quelque chose de négatif, cela n'a rien de négatif. Au contraire même, c'est parce que tu mets Dieu en premier que tu prospéreras dans tous les aspects de ta vie. Parce que Dieu prendra soin de toi. Amen. À la conquête des promesses. On est en train d'atterrir sur cet enseignement. Et pourquoi je prends le temps d'insister sur cet enseignement? Un, parce que c'est un enseignement que nous avons vraiment reçu dans la prière. C'est quelque chose qu'on a reçu. On a pris le temps en fin d'année 2013 de prier et de demander au Seigneur dans quelle direction allons-nous aller, non seulement au niveau de l'Église pour l'année 2014, mais aussi au niveau de nos vies personnelles. Et j'ai reçu cet enseignement-là et j'ai dit, ok, ça je vais nous le donner. Quand tu reçois une parole du Seigneur, tu te dis que tu vas la donner un dimanche, et puis le dimanche d'après, tu vas passer à autre chose. Non, mais chaque semaine, tu reçois de nouvelles choses. Et tu te rends compte qu'en fait, la parole que tu as reçue, elle est très profonde. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et nous rentrons dans la 8e semaine de cet enseignement. Et il y a beaucoup d'informations qu'on a eues. Et ma prière, c'est que tout ce qu'on a reçu, on puisse l'expérimenter. À la conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi à la conquête des promesses? Et nous sommes toujours sur notre partie qui s'intitule l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour pouvoir réussir avec Dieu dans la vie, il faut être intime avec lui. Les gens qui font des exploits avec Dieu, ce sont ceux qui sont intimes avec lui. Ce sont ceux que Jésus-Christ identifie comme véritables adorateurs, les vrais adorateurs. Ceux que le Père demande, ce sont de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et dans l'intimité avec le Saint-Esprit, Dieu nous a montré que il y a quatre attitudes que l'on doit adopter lorsque nous nous préparons à entrer en Canaan, lorsque nous nous apprêtons à entrer dans la nouvelle saison pour notre vie. La première attitude, la première décision à prendre, nous avons dit que c'était la consécration. La consécration. Est-ce qu'on peut dire avec moi la consécration? Et on a passé 3 semaines sur la consécration, tellement c'est important de se consacrer au Seigneur. La deuxième étape de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est celle que nous avons vue la semaine dernière, la circoncision. Est-ce qu'on peut dire avec moi la circoncision? La circoncision. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième attitude, la troisième étape à adopter dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand vous prenez le temps d'analyser ces ordres, ces recommandations que Dieu a données à Josué et au peuple, on se rend compte que ces 4 mots qui commencent par un C, tous les 4 mots commencent toujours par un C. La consécration, la circoncision, et le troisième aujourd'hui, c'est la célébration. Est-ce qu'on peut dire avec moi la célébration? On se rend compte que le peuple s'était préparé d'une manière très particulière. Il s'était consacré pendant 3 jours. Ensuite, ils se sont circoncis parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Et la circoncision, on a dit que c'était le signe de l'alliance que Dieu avait avec chacun d'entre nous. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la circoncision n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Et au regard de la Bible, on a dit que la circoncision était quelque chose de très important aux yeux de Dieu, au niveau de son alliance. Donc, quand Dieu veut marcher avec nous, il nous demande de circoncire notre cœur. Il nous demande d'enlever toutes ces impuretés, toutes ces choses-là qui ne le glorifient pas, toutes ces choses-là qui peuvent nous empêcher d'avancer avec lui. Et c'est un point très important de l'alliance. Un point très important de l'alliance. Et la troisième chose que le peuple a fait, c'est celle-ci. Dans le livre de Josué au chapitre 5, il est écrit ceci. On va lire un peu. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Une autre version dit, « Je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour, qui veut simplement dire « action de rouler ». C'est pour cela que Dieu dit, « J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » C'est pour ça qu'en hébreu, on parle de Gilgal. Gilgal. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Est-ce qu'on peut dire amen? Après avoir pris la décision de se consacrer au Seigneur, après l'avoir pris la décision ensuite de se circoncire, pour ne pas parler de la circoncision du cœur en ce qui nous concerne, le peuple fit quelque chose d'extrêmement important. Le peuple a fait la fête. Alors, ce qui est assez particulier, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on rentre dans le contexte, quand on essaie de s'identifier à la parole, aux gens de l'époque, ils s'apprêtent à aller faire la guerre. Ils s'apprêtent à aller mourir. Parce que quand on va faire la guerre, tu ne sais pas si tu vas revenir. Tu vois? Ils s'apprêtent à aller faire la guerre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils font la fête. Ils célébrèrent quoi? La Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque avait été instituée au temps de Moïse, au moment où les Juifs sortirent d'Égypte. Lorsque Moïse est venu en libérateur pour délivrer le peuple d'Égypte, Moïse, de la part de Dieu, a institué une fête qu'on appelle Pâque. Pâque est une fête très importante pour les chrétiens. Pâque est une fête très importante dans le royaume. Et eux, au lieu d'être en prière, comme beaucoup d'entre nous auraient fait, « Oh, je vais prier, j'ai un rendez-vous très très important là aujourd'hui, j'ai un entretien, peut-être que c'est l'entretien qui va changer ma vie. Je ne sais, il faut que j'aille prier, je vais prendre 40 jours de jeûne, parce que peut-être aujourd'hui, ma vie va être transformée. Oh, je dois absolument signer ce contrat là, parce que si je signe ce contrat, ma vie va changer. Donc tu vas aller prier, tu vas aller te rouler par terre, tu vas te mettre à genoux, etc. » Dieu dit, « Fais la fête. Célèbre. Sois heureux. » Et quand on dit faire la fête de la Pâque, là, c'est, on célèbre. On chante, on danse, on mange, on jeûne pas, on mange. Voilà, on fait la fête. Et quand on a fini la fête, maintenant on va se battre. Donc, Dieu ne pense pas comme nous. Hein? Dieu ne pense pas comme nous. Ils firent la fête. Ils célébrèrent la Pâque. Le mot Pâque vient d'un mot hébreu que l'on prononce Pessah, P-E-S-A-H. Pessah, qui veut simplement dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Donc, pour nous qui sommes en Christ, la Pâque préfigure l'image de Christ sacrifié pour nos péchés, notre Rédempteur. Si Christ s'est sacrifié pour nos péchés, Si Christ a tout pris sur la croix pour nous, nous n'avons plus besoin de faire d'efforts. Christ a tout pris. Donc, c'est vrai qu'il est important de prier, c'est vrai qu'il est important de se consacrer, mais lorsque Dieu te dit « célèbre la Pâque », il n'est pas en train de dire que tu seras, comment dire, moins chrétien demain. Tu resteras toujours son fils, tu resteras toujours chrétien, mais il y a des principes à suivre. Et la Pâque était un principe très important lorsque le peuple s'apprêtait à entrer dans une nouvelle dimension. Juste pour rappel, la Pâque vient de Exode 12 au verset 13, je lis rapidement. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, le peuple savait qu'il s'apprêtait à rentrer dans une nouvelle dimension. La dimension de Canaan. Est-ce qu'on peut dire avec moi Canaan? Canaan, c'est la dimension de la terre promise. Canaan, c'est la dimension de l'abondance. Canaan, c'est la dimension de la percée. Canaan, c'est la dimension de la prospérité. La dimension de la paix. La dimension du repos. Et c'est la dimension dans laquelle on veut tous rentrer. Bien entendu, cela va nous demander du travail. Cela va nous demander de la consécration. Cela va nous demander de chercher Dieu, de poser des actes. De se lancer dans des domaines dans lesquels on avait toujours peur de se lancer, de prendre des risques, de sortir de notre zone de sécurité, de confort, etc., etc. Les projets qu'on a à cœur, tout ce qu'on veut faire, on veut pouvoir non seulement réaliser nos rêves, mais aussi pouvoir expérimenter ce repos-là, cette dimension-là où on peut prendre des vacances 5 fois par an. Qui veut prendre des vacances 5 fois par an? J'aimerais bien, moi. 5 fois par an, partir en République dominicaine. Je suis parti avec mon épouse lors de nos noces. C'était trop bien, vraiment. C'est bien là-bas. Où tu vois les plages et c'est transparent. Tu vois les poissons dans l'eau. Tu te dis, ah, si on avait des plages comme ça à Libreville, vraiment. C'est la dimension du repos. Hein? Donc, tout le monde veut expérimenter Canaan. Donc, la Pâque, non seulement commémore le sacrifice que Christ a fait à la croix pour chacun d'entre nous, mais la Pâque symbolise aussi cette confiance là que l'on a pour Dieu, dans laquelle on croit que Dieu fera. Tout à l'heure on a chanté Dieu est capable, et la Pâque, le fait de célébrer la Pâque, c'est une façon de dire à Dieu: Seigneur, on sait que tu es au contrôle, on sait que là où on va, on reviendra indemne, on sait que là où on entre, on y arrivera, on réussira, parce que tu es notre rédempteur, tu es celui qui a porter nos fardeaux, tu es celui qui a porté nos iniquités, tu es celui qui a porté nos péchés, et aujourd'hui, je n'ai plus rien à craindre, je sais que j'y arriverai. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui doit avoir ce que j'appelle la mentalité de l'abondance, c'est-à-dire, il marche, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on dit au journal de 20h, il dit, moi, je ne dépends pas de ce pays, je ne dépends pas de ce monde, j'y arriverai, je réussirai. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à réussir. Le jour où tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Et parce que tu es né de nouveau, tu as la personne la plus importante sur la terre appelée le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'excellence, il est l'esprit d'abondance, il est l'esprit de paix, il est l'esprit de vie, il est l'esprit de tout. Et Dieu dit que cet esprit désormais habite en toi. Donc l'échec n'est même pas une option dans ta vie. C'est même pas une option. L'échec, c'est même pas prononçable. Je dois être heureux. Je dois être heureux. Je dois être heureux dans ma famille. Je dois être heureux dans mon mariage. Je dois être heureux au niveau professionnel. Je dois être heureux au niveau de mes entreprises. Je dois être heureux à tous les niveaux. Donc, l'échec, ce n'est même pas quelque chose de pensable chez moi. Donc, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile, même si je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident, mais une chose est sûre, c'est que j'y arriverai. Amen. C'est très important de penser comme ça. Donc, la fête de la Pâque commémore la victoire de Dieu sur tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Dans la Bible, nos ennemis sont illustrés par les Philistins, etc. Ces gens-là. Les Éphésiens, les Liens et tous les Liens. Mais nos ennemis, dans la vie de tous les jours, ce sont ces Goliaths-là. Ces montagnes-là qui se tiennent devant nous et qui parfois nous empêchent d'avancer. Les manques financiers, les manques de ressources humaines, les portes qui ne s'ouvrent pas et quand on veut qu'elles s'ouvrent, etc., etc. Toutes ces choses-là qui nous amène à l'épanouissement, mais qu'on n'arrive pas encore à, à déclencher dans notre vie. Et pourquoi? Parce que devant nous, il y a des ennemis qui se dressent devant nous, des montagnes, des obstacles. Et ces obstacles-là, quels qu'ils soient, il faut les franchir. Et c'est ça nos ennemis. Mais la Pâque, Dieu dit que lorsque les ennemis se tiennent devant toi, lorsque l'épreuve se tient devant toi, lorsque la vie te fait sa dure, comme on dit, Dieu dit, ne prie pas. C'est vrai qu'il faut prier, mais il y a un temps où tu dois célébrer. Il y a un temps où tu fais ce qu'on appelle une célébration prophétique. Oui, une célébration prophétique où tu dis, je fais la fête. On te demande, mais pourquoi tu fais la fête? Tu n'as même pas encore commencé. Non, je fais la fête parce que je sais que je vais réussir. Ah, vraiment, ça c'est l'orgueil ça. Non, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Parce que Dieu est avec moi et je sais que je vais y arriver. Gloire à Dieu. La Pâque est le symbole de la victoire que Dieu a acquise pour nous à la croix. Et cette fête est une fête très importante dans le royaume. Et Dieu dit, lorsque tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle dimension de ta vie, cette dimension que l'on appelle Canaan, fais la fête. Parce que tu sais pourquoi? Colossiens 2, chapitre 15, dit que Christ, Jésus-Christ, a dépouillé les dominations et les autorités. De quelle domination et autorité il parle ici? Il parle de Satan et de toute sa cohorte. C'est pour ça que je t'ai toujours dit que si tu es en Christ, consacré, purifié, sanctifié, mature, connecté au Saint-Esprit, même Satan en personne, quand il vient se présenter dans ta chambre devant toi, tu es tranquille. Tu dis, tu es vaincu. C'est-à-dire, lui, quand il veut parfois prendre le temps de te rappeler ton passé en te disant, mais tu te rappelles ce que tu as fait. Hein? À cause de ça, tu es toujours coupable. Quand tu prends le temps de lui rappeler son futur, oui, à cause de ce que tu as fait, la gêne t'attend devant aussi, Satan. Amen. Donc, Dieu dit que je les ai dépouillés. J'ai dépouillé les autorités, j'ai dépouillé les dominations. Et je les ai, et il dit, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Donc, la Pâque, le fait de célébrer ce que le peuple avait choisi de faire, c'était de célébrer cette victoire-là. Ils n'avaient pas commencé à se battre, mais ils savaient que la victoire leur était acquise. Et le peuple, ici, au travers de ce passage-là, est en train de nous envoyer un message. Ce message, c'est que, quel que soit ce qui va arriver devant, même si tu ne contrôles pas l'avenir, sache que Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances et qu'il tient ta vie entre ses mains. Et parce que tu mets totalement ta confiance en lui, il te gardera au jour de la détresse, il te gardera lorsque tu entreras en Canaan sur la terre du repos. Amen. La fête de la Pâque est caractérisée par deux choses. La première chose qui caractérise la fête de la Pâque, que Dieu nous demande de célébrer ici, c'est que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui est célébré, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui est célébré dans toute sa grandeur et sa force. On se souvient de sa bonté et de sa puissance. Il est notre bouclier, il est notre force, il est notre haute retraite, il est notre lumière. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dit David. Psaume 28 au verset 7, David rajoute encore, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Et aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à te souvenir toujours de cela. Les paroles que je viens de dire là sont des paroles d'un homme qui les prononçait alors qu'il était face aux difficultés. Il était face à la détresse. Oh oui, il était face à la détresse. Donc, souviens-toi toujours que celui qui te délivre, c'est Dieu. Quand tu as des moments difficiles, au lieu de courir chez papa, chez maman, chez les oncles, etc., prends toujours le temps de t'enfermer seul dans une salle et puis à voix haute, pas à voix haute, tu prononces. Tu dis, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es mon soutien, tu es ma haute retraite. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête qui se présente devant moi, tu es ma haute retraite. Tu es mon bouclier, tu me protèges et je tiendrai debout, quelles que soient les circonstances. Amen. Donc, confie-toi en lui. La deuxième caractéristique de la fête de la Pâque que le peuple avait choisi de célébrer ici, c'est que c'est une fête où la louange est mise à l'honneur. Est-ce qu'on peut dire avec moi la louange? La louange. La célébration est à l'honneur. La Bible dit que la Pâque, dans le livre de Exode chapitre 12, que la Pâque, le fait de célébrer la Pâque, c'est une sainte convocation qui devait durer 7 jours. Pendant sept jours, Dieu dit dans le livre de Exode 12 que le peuple devait arrêter de travailler. Nous, aujourd'hui, on célèbre la Pâque en une journée, on dit que c'est une fête comme ci, comme cela. Mais dans la Bible, la Pâque, c'est une fête qui se célèbre pendant 7 jours. Pendant 7 jours, t'imagines, on te dit à cause de la Pâque, 7 jours fériés dans notre pays, ce serait bon ça. Ce serait bon ça. Mais non, Dieu dit c'est ça la Pâque, c'est ça la véritable Pâque. Mais non, à cause de l'évolution des mœurs, on est passé à une journée. Mais bon, c'est une sainte convocation. Une sainte convocation, c'est-à-dire une fête où tous les parlementaires du Seigneur, tous les ambassadeurs de Christ que nous sommes, sont convoqués et invités à revêtir un vêtement de louange. Pourtant, au regard de la parole, le peuple s'apprêtait à aller mourir. Le peuple s'apprêtait à aller au combat. Le peuple s'apprêtait à aller conquérir Canaan, conquérir la terre des promesses. Et tu es là, tu regardes 2014, tu dis « Ok ». Quels sont les défis à relever cette année? Tu prends ta liste. Tu listes tout ce que tu as à faire cette année. Tu listes toutes les portes qui doivent s'ouvrir. Tu listes toutes les épreuves par lesquelles tu dois passer pour atteindre tes objectifs. Tu les listes. Tu les accroches sur un mur. Tu les lis une fois, deux fois et après tu te mets à danser. Tu te mets à danser. Pas prier. Oh, Seigneur, merci. Non, tu danses. Tu dis Seigneur, merci. Parce que je visualise. Un jour, j'étais en train de regarder la télévision et je regardais les Jeux Olympiques. Je regardais les Jeux Olympiques et je venais de voir la course du 100 mètres, la finale. Et puis, il y avait Usain Bolt qui venait de remporter encore, une fois de plus, les Jeux Olympiques. Il était sur la première estrade avec sa grosse médaille d'or. Et puis, à côté, il y avait les deux autres. Et puis, quand on commence son hymne national à lui, vous savez ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il pleure. Et puis, je vois, il esquisse un petit sourire sur le côté. Genre, il est content. Et puis, il continue, il pleure. Nous, on s'est dit qu'il pleure de tristesse, plutôt de joie. Mais en fait, il pleure pas de joie parce qu'il vient de gagner. Vous savez pourquoi il pleure? Il pleure à cause de tous les contrats publicitaires qu'il vient de gagner. Il pleure à cause de tout le pognon qu'il va rentrer. Il pleure à cause de tous les compliments qui vont arriver. Il va être sur toutes les couvertures des journaux. C'est à cause de ça qu'il pleure. Il dit, Seigneur, mais waouh, c'est magnifique. Il pleure à cause du nom qu'on va lui attribuer parce que les derniers Jeux Olympiques qu'il venait de remporter, on lui avait dit que s'il remportait ces Jeux Olympiques-là, il allait être nommé l'homme le plus rapide de tous les temps. Parce que jamais personne n'avait réalisé la performance qu'il avait faite. Donc il pleure à cause de ce titre-là qu'il allait recevoir. Il pleure à cause de tous les contrats publicitaires. Il pleure à cause de toutes les voitures qu'on va lui donner. Il pleure à cause des maisons. Il pleure à cause des voyages. Ambassadeur de l'UNESCO, ambassadeur de tel grand organisme. Il pleure à cause de ça. Il pleure pas parce qu'il vient de gagner. Il savait qu'il allait gagner. Mais il pleure à cause de tout le bien qu'il va avoir devant. Donc tu prends ta liste. Tu prends ton entreprise. Tu prends tous tes objectifs et puis tu es là, tu commences à danser. Et tu dis, ah Seigneur, ça, quand ce sera fait, waouh, je vais être bien, je vais être bien. Et tu dis, je te rends grâce, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la louange qui est à la fête. C'est la louange qui est à l'honneur. Donc dans la saison de la conquête des promesses, le vêtement de louange est le vêtement que tu devras porter tout au long de l'année pour avoir le dessus sur tes ennemis. Tu devras toujours te souvenir que quelles que soient les circonstances qui peuvent survenir sur ta route, sur la route de la réussite, tout est accompli à la croix et la victoire en Christ a été totale. Totale. Donc ton assurance vient du fait que tu sais que Christ a tout accompli pour toi. Quand quelqu'un te dit, je pense que tu auras du mal à y arriver, tu dis non. Moi je sais que j'y arriverai. Je suis appelé à être heureux et épanoui. Et le matin, quand tu te lèves, les gens te demandent « Pourquoi es-tu aussi joyeuse ? Es-tu aussi joyeux ?» Tu dis « C'est à cause de la victoire de Christ à la croix. Je sais que je vais y arriver. Je suis dans la paix, je suis serein. » Donc, il y a une atmosphère propice à la manifestation de la gloire de Dieu. Et ça, les Juifs l'avaient compris. Il y a une atmosphère propice à la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Cette atmosphère, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. C'est la louange et l'adoration. Quand tu as un problème, quand tu as du mal à réfléchir, mets la louange. Parce que la louange quand tu mets la louange, il y a une atmosphère qui se crée autour de toi. Ton environnement se dispose. Et quand ton environnement se dispose, ton âme aussi se dispose. Ton esprit aussi se dispose. Tout ton être se dispose. Et quand l'atmosphère est saturée, purifiée et sanctifiée, il se passe ce que Jésus-Christ a dit. Lorsque les disciples lui ont dit, Seigneur, comment devons-nous prier? Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Mais Dieu ne vient pas n'importe où. Dieu vient que là où il y a la louange. Dieu vient que là où il est célébré. C'est pour cela que Dieu dit au peuple, célébrez. Parce que quand vous allez célébrer là, je vais venir habiter au milieu de vous. Et quand je viens habiter au milieu de vous, je vous garantis la victoire. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc il y a une atmosphère propice à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie et dans ma vie que tu dois toujours cultiver. C'est l'atmosphère de la louange. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'atmosphère de la louange? L'atmosphère de la louange. David dit dans le psaume 22 au verset 3, « Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. » Tu sièges au milieu des louanges. Donc sur la route de Canaan, sur la route de la conquête des promesses, vers la conquête des promesses, il faut toujours t'assurer de porter ce vêtement de louange qui te permet de rester concentré sur l'objectif que tu t'es fixé et de ne pas laisser les ennemis ou bien les événements négatifs venir enlever ta joie. La louange, est-ce qu'on peut dire avec moi la louange? Oui, la louange. Qu'est-ce que la louange? La louange n'est pas un, comment dire, n'est pas un système musical qui sert simplement à détendre les gens. Pour ne pas parler de l'église. La louange n'est pas simplement de la musique qu'on met parce que le pasteur va commencer à prêcher. La louange, c'est bien plus que ça. La louange n'est pas simplement un groupe de chants de musiciens qui se réunissent à l'église pour te détendre, pour te faire plaisir. La louange est une atmosphère dans laquelle Dieu est célébré et dans laquelle Dieu prend plaisir à venir habiter. Amen. La louange est une arme qui garantit le changement dans la vie. Quand tu loues Dieu et lui rends grâce, tu actives une clé qui donne accès à la faveur divine et cette clé s'appelle la louange. Vous vous rappelez de l'enseignement dont on avait parlé ici il y a 2 mois, les clés du royaume. Jésus-Christ dit, Matthieu 18, 16, je te donnerai les clés du royaume. Et dans le royaume, il y a une clé qui s'appelle la clé de la louange. Et ce qui est extraordinaire, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est que c'est la seule clé dans toute la Bible qui porte le nom de quelqu'un. Et cette personne s'appelle David. David. David est quelqu'un qui a utilisé une seule clé dans sa vie et qui a fait des choses extraordinaires. Cette clé, c'était la clé de la louange et de l'adoration. Et cette clé, il l'a tellement bien utilisée, il l'a maîtrisée tellement que Dieu a dit, cette clé va s'appeler la clé de David. Et cette clé, parmi toutes les clés, c'est la clé dont je vais m'approprier. Et c'est pour cela que lorsque l'apôtre Jean se trouve sur l'île de Patmos dans le livre d'Apocalypse et qu'il a une vision de Christ, Christ dit, je suis celui qui est vivant et qui détient la clé de David. Apocalypse chapitre 2. Je suis celui qui est vivant et qui détient quoi? La clé de David. Qu'est-ce que la clé de David? La clé de David, c'est la clé de la louange. C'est une clé qui était puissante. C'est une clé qui, lorsque David l'activait, il y avait une atmosphère qui se mettait en place et Dieu prenait plaisir à cette atmosphère-là. C'est cela qu'il a fait lorsqu'il a fait venir l'arche à Jérusalem. David était devenu roi. Il était devenu roi, mais il s'est dit, je ne peux pas régner si Dieu ne règne pas avec moi. Mais je sais que pour faire venir Dieu à Jérusalem, il faut que j'emmène l'arche. Et il a essayé la première fois. Quand il a essayé la première fois de faire venir l'arche, il y a eu un mort. Parce qu'il s'était pris de la mauvaise manière. Il était allé chercher des païens pour porter l'arche de Dieu. Et Dieu avait frappé. Et la Bible dit dans le livre de 1 Chronique, qu'il est parti chercher pendant 3 mois. 1 Chronique chapitre 26 ou 28. Il est parti chercher pendant 3 mois en se posant une question. C'est écrit dans la Bible. Comment vais-je faire pour amener l'arche à Jérusalem? Et le verset d'après, il est écrit que David, sous le conseil du prophète Nathan et du voyant Gad, instaura des chantres autour de l'arche. Et ils firent venir l'arche en célébrant, en dansant. Et là, David dansa de tout son cœur, etc., etc. On connaît l'histoire. Amen. La clé de la louange. Est-ce qu'on peut dire avec moi la clé de la louange? Oui. Donc, la louange est l'atmosphère dans laquelle Dieu se manifeste de la manière la plus exceptionnelle. La louange est comme un parfum agréable qui monte devant le trône et réjouit le cœur de Dieu. La louange est cette atmosphère dans laquelle Dieu intervient de manière surnaturelle dans ta vie. La louange est l'arme la plus puissante que tu possèdes pour vaincre tes ennemis de façon certaine. Comment? Parce que dans la louange, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Amen. Ouais, c'est Dieu qui combat. Et il le fait de manière surnaturelle. Il le fait de manière qui te dépasse. Donc, l'un des moyens les plus puissants pour traverser les plus grands défis auxquels on peut être confronté dans la vie, c'est de cultiver cette atmosphère de louange autour de nous. Parce que tant que tu demeures dans la louange et dans l'intimité du Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. Au lieu de rester à écouter des paroles qui te découragent, au lieu de rester devant des émissions télévisées qui ne t'apportent rien, au lieu d'aller chercher conseil auprès de personnes qui ne sont même pas expérimentées, va chercher Dieu dans la louange. Écoute sa voix, soit dans l'adoration, soit dans cette intimité-là, et célèbre. Et dis simplement, Dieu, je te rends grâce parce que je sais qu'avec toi, tout est possible et que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc la louange est cette atmosphère dans laquelle ni les problèmes, ni les émotions négatives peuvent prendre le dessus. Ils sont obligés de partir et laisser la place à la paix, la joie et l'amour. Je vais te dire c'est quoi l'atmosphère de la louange. L'atmosphère de la louange, tu es là, où que tu ailles, tu as ce fardeau de problèmes qui sont sur le dos, ce fardeau de soucis qui te préoccupe. Ça te suit partout. Quand tu es au travail, ça te préoccupe. Quand tu viens à l'église, ça te préoccupe. Quand tu es à la maison, ça te préoccupe. Quand tu es dans la voiture, ça te préoccupe. Mais dès que tu entres dans l'atmosphère de la louange, le problème, il dit, bon, là, je ne peux plus y aller, là, je ne peux plus te suivre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligé de faire demi-tour, de m'arrêter là. Amen. La louange. Donc, quand tu pries et que tu dis, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, tu es en train d'inviter Dieu à venir auprès de toi. Mais Dieu ne viendra que s'il y a l'atmosphère de la louange autour de toi. Et ça, Josué l'avait compris. Josué savait qu'il partait au combat et il avait besoin d'instaurer cette atmosphère-là. Ils se sont consacrés, ils se sont circoncis et ils ont dit, maintenant on célèbre la victoire parce qu'on sait à l'avance que Dieu est notre force et qu'il nous garantit la victoire. Donc la louange est le moyen par lequel Dieu prend le relais dans tes batailles. Il y a un temps où c'est toi qui te bats et il y a d'autres temps où c'est Dieu qui combat. Vous n'avez jamais croisé des chrétiens dans la rue qui sont là et puis ils chantent. « Oh Seigneur, je te rends grâce. » Toi aussi, tu es en Christ, hein, mais toi, tu ne chantes pas. Mais lui, il chante. Oh, vous êtes dans le taxi, lui, il chante. « Oh, alléluia, je te bénis, Seigneur. » Il est là, il chante, il marche, là, il va au travail. Toi, tu es là, dans tes soucis, dans tes problèmes. Mais lui, il chante. Il chante, pourquoi? Il est en train de célébrer. Il dit, « Seigneur, quelles que soient les circonstances, je sais que tu es avec moi. » On avance, on avance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Éphésiens 2, 3 nous dit, au verset 20, Éphésiens 3, au verset 20, il nous dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. » Il peut faire bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et si Dieu peut faire bien au-delà de tout ce que je peux imaginer, alors de quoi aurais-je crainte? J'ai simplement à rester dans la paix, dans cette atmosphère de louange. Donc, Josué et le peuple ont fêté la Pâque. Ils ont fêté la commémoration du sacrifice de Christ à la croix. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Pourtant, quand ils vont au combat, le peuple en face est bien plus nombreux qu'eux. Pourtant, les forteresses de Jéricho sont largement, elles sont très élevées et ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho. Pour pouvoir renverser les murailles de Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont célébré. Ils sont venus devant Jéricho. Dieu a dit, pendant 7 jours, vous tournez autour de la ville en silence. Et le 7e jour, lorsque Josué vous donnera le go, vous poussez des cris de joie et vous commencez à danser. Donc, ils se tiennent devant Jéricho. Et le 7e, pendant le premier jour, ils arrivent. Silencieux. Les autres les regardent par le livre, ils disent, mais ils sont fous ces juifs. Ils sont fous. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et septième jour, ils sont toujours là en bas des murailles. Tout le monde les regarde. Et quand Josué donne le signal, ils se mettent tous à crier et à danser, à taper des cymbales, etc. Ils se mettent à danser. Le peuple les regarde. Le peuple dit, mais c'est ça la guerre qu'ils sont venus faire. Ils dansent. Et on connaît l'histoire, les murs se sont effondrés. Amen. Oh oui. Donc Jésus avait compris l'atmosphère de la louange et celle dans laquelle Dieu se déploie et vient à notre secours. Josué 5, verset 10 dit que les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque. Et notre foi, elle a besoin de cette atmosphère. Elle a besoin de cet environnement. Toutes les fois où tu vois rentrer dans ton cœur la tristesse, les soucis, le doute, la peur, c'est parce que tout simplement, tu n'es pas dans cette atmosphère-là qui te rend fort, qui te remplit d'assurance. Et dès que tu es en proie aux soucis, aux doutes, établis la louange autour de toi. Établis, crée cette atmosphère-là, cette atmosphère qui déclenche les miracles. Et cet environnement est très important. Et il y a des environnements auxquels tu ne dois pas être en contact. Les gens, certains sons qui peuvent venir te perturber. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes. Un enfant de Dieu, bien entendu, a le droit de regarder la télévision. Mais fais attention à ce que tu regardes. Parce qu'il y a certaines choses que tu regardes qui peuvent venir semer des choses en toi. Qui peuvent après te stopper. Fais attention à ce que tu écoutes. Vous n'avez jamais vu certains réflexes que la plupart des gens autour de vous ont. Dès qu'ils se lèvent le matin ou dès qu'ils montent dans la voiture, ils mettent RFI. Alors, il a été dit en Centrafrique qu'il y a eu hier soir 50 morts qui ont été égorgés, étranchés. On leur a tranché la gorge, on les a tués. Alors, François Hollande s'est déplacé en Centrafrique et il est reparti à Paris illico presto. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Moi, je connais quelqu'un, une proche de ma famille, dès qu'elle se lève le matin, je suis resté plusieurs mois avec elle à la maison. Dès qu'elle se lève le matin, elle allume France 24. Bonjour à tous, France 24, bienvenue encore sur notre plateau. Alors, le président de la France a été surpris sur sa moto en train de tromper sa femme. Alors, en Centrafrique, il y a eu 50 morts. Au Mali, les soldats français, ils sont toujours parce qu'il y a toujours la guerre là-bas, etc. Tu as dit, mais ça, et tu commences ta journée comme ça. Et qu'est-ce que tu es en train de faire sans t'en rendre compte? Tu es en train de polluer ton atmosphère. Tu es en train de polluer ton environnement. Et après, quand tu t'es levé, France 24 est en train de tourner, tu es là, tu te lèves, tu te prépares, et après tu dis, ah Seigneur, je vais maintenant prier. Je me mute sur la télévision, et puis tu ne peux plus prier. L'atmosphère est polluée. Amen. Tu ne peux plus prier. Oh oui, c'est très important ça. Ce sont des principes simples, mais ô combien importants. Et ta foi a besoin d'avoir un environnement propice et idéal pour se manifester. Pour se manifester. Vous ne vous rappelez pas dans 2 Chroniques, je ne me rappelle plus du passage, je vous invite à aller chercher. Le prophète Élisée était chez lui et le roi Achab, qui avait pour femme, comment elle s'appelait celle-là? Jézabel. Achab vient voir le prophète Élisée. Et le prophète Élisée lui dit, c'est à cause de Josaphat. Parce qu'en fait, Achab s'était associé à Josaphat, le roi Josaphat, qui était roi de Juda, et Achab était roi d'Israël. Et Achab va voir Josaphat et lui dit, associe-toi à moi pour qu'on aille en guerre. Et Josaphat lui dit, avant d'aller en guerre, allons d'abord consulter le prophète, s'il te plaît. Et Achab va voir le prophète Élisée. Et Achab, c'était un roi impie. Et quand il va voir Élisée, Élisée lui dit, tu es un mauvais roi, Achab. Si ce n'était juste à cause de toi, je ne me lèverais même pas pour prophétiser. Mais c'est à cause de Josaphat qui est agréable à l'Éternel que je me lève. Voilà. Et Élisée, quand il se lève, regardez bien le texte, Élisée était de mauvaise humeur à cause d'Achab. Et Élisée savait que dans cette atmosphère-là, dans cet état d'esprit-là, il ne pouvait pas prophétiser. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée dit, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. Et qu'il joue de la harpe. Et la Bible dit que dès que le musicien se mit à jouer de la harpe, la paix vint dans le cœur d'Élisée et il commença à prophétiser en leur déclarant que vous aurez la victoire. L'environnement, c'est très important. Et tout ça sont des choses que la Bible nous montre. Si un prophète a besoin d'avoir un joueur de harpe pour prophétiser, à plus forte raison, toi. Tu as besoin de l'atmosphère de la louange pour pouvoir aller de l'avant. C'est très important. Donc la louange est une atmosphère qui est extrêmement importante pour la manifestation de notre foi. Et Dieu se manifeste dans la louange. Dieu agit dans la louange. Dieu fait des miracles extraordinaires dans la louange. Et beaucoup d'entre nous, on se laisse submerger par tout cela. Il y a deux personnages, on va atterrir. Il y a deux personnages dans la Bible qui avaient compris ce principe très important avant d'aller à la conquête de leur promesse à eux. Le premier, c'est David, on en a parlé tout à l'heure. 2 Samuel 6, 14, je rappelle. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Il avait revêtu le vêtement de louange. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Il y a des gens qui te prendront pour un fou. Rien que le fait que tu viennes à l'église, là, il y a des gens qui te prennent pour un fou. Ou pour une folle. Il y a des gens qui disent, regardez-moi, c'est chrétien. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui te mépriseront à cause de cette attitude-là que tu auras. De positiver grâce à cause de Dieu. Et David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas à cause de toi ni à cause de ton père que je danse. C'est à cause de l'Éternel, à cause du bien qu'il m'a fait, à cause de toutes les grâces qu'il m'a accordées. C'est à cause de lui que je danse. Et mon règne est en train de commencer. Je viens de prendre le pouvoir. Je suis un politicien, je viens de prendre le pouvoir. Mais je sais que si Dieu ne règne pas avec moi, mon pouvoir ne sert à rien. Mon royaume, ce n'est qu'une question de temps si Dieu n'est pas avec moi. Et David l'avait compris. C'est pour cela qu'il a instauré l'atmosphère de la louange. Et il va même aller plus loin, David. David va instaurer un système. À l'époque, tout le peuple avait pour habitude d'aller adorer Dieu dans un grand temple. Lui, il va prendre une tente sur quatre pics qu'il va installer, il va mettre l'arche au milieu, et il va dire maintenant tout le monde a le droit de venir louer le Seigneur là. Il va mettre un système de chant et d'adoration qui va tourner 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, les gens se relaient. C'est de là qu'on a vu apparaître des gens comme Asaph, Jedutun, ces gens-là qui ont marqué la louange dans la parole de Dieu. C'était des gens extraordinaires, et c'est des gens qui avaient beaucoup, qui avaient compris l'importance de la louange dans tout ce qu'on fait. La deuxième personne, j'en ai parlé aussi, c'est Josaphat. C'est Josaphat. Et regardez ce qu'il dit. 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 18. On va finir par ça. Josaphat était en proie à un gros problème. C'est que le roi de Syrie lui avait déclaré la guerre. Et la Syrie, c'est l'ennemi de la Syrie dans la Bible. C'est un ennemi redoutable. C'est un ennemi redoutable. D'ailleurs, je pense qu'ils sont toujours aussi redoutables aujourd'hui dans le monde parce que on est allé finir Kadhafi en Libye, on a fini l'autre en Côte d'Ivoire, mais pour lui en Syrie, on n'est pas encore allé le toucher. Parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ce ne sera pas aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils ne sont toujours pas allés là-bas. Oh oui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas partis. Et la Syrie avait déclaré la guerre à Josaphat. Josaphat dit, cet ennemi-là, pour le vaincre, ça va être difficile. Et Josaphat savait qu'il était fini. Et son seul recours, c'était l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 18. Il est écrit ceci. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. C'est ce que le prophète lui déclare. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas. Et ne vous effrayez pas demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, c'est-à-dire les chantres, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils de Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'ennemi est à la porte, prêt à les terrasser, mais eux, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils célèbrent. Amen. Ils s'élèvent. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, peuple de Dieu, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te dire. « Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Est-ce qu'on peut dire avec moi des chantres? il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. » Ils sont en train d'aller vers leurs ennemis. Et qu'est-ce qu'ils, et ils y vont comment? Ils y vont en célébrant. Ils y vont en célébrant. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord tué les autres, ensuite ils se mettent à se tuer entre eux. C'est-à-dire que Dieu les avait rendus fous en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est juste ça. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Ils arrivent sur la montagne maintenant prêts à combattre, après avoir dansé, et ils se rendent compte que tous leurs ennemis sont tous morts. C'est extraordinaire ce que la Bible nous montre. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont célébré. Et quand ils ont célébré, ils ont instauré l'atmosphère de louange. Et dans cette atmosphère-là, avant même qu'ils ne s'en rendent compte, Dieu avait déjà réglé le problème. Et c'est ce que Dieu fait. Quand tu célèbres, quand tu établis cette atmosphère de louange, tu es encore dans ton salon en train de danser, mais tu ne sais pas que le problème est déjà réglé. Le problème est déjà réglé. Même lorsque tu vas au travail, on te dit, mais le dossier-là n'est pas encore clôturé, tu dis, c'est déjà réglé. Mais il y en a marre, il faut que tu règles ça vite. C'est déjà réglé, je te dis. Ne t'inquiète pas. Ça fait combien de temps que tu attends pour avoir un enfant? Et les gens te disent, mais ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que tu attends. Toi, tu réponds, c'est déjà réglé. L'enfant est là, il arrive. Il arrive. Moi, par exemple, mon épouse et moi, c'est seulement après 4 ans de mariage qu'on a eu notre première fille. Pendant les 4 ans, là, on m'a harcelé. Ma famille m'appelait. Mais 4 ans, fils, qu'est-ce que tu attends pour faire ton premier enfant? J'ai dit, c'est bon, l'enfant arrive. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous venez me perturber avec vos histoires? L'enfant est là, il vient au temps de Dieu. Et je ne m'inquiète pas, je n'ai même pas besoin de prier pour ça. Et quand je priais le matin, au lieu de supplier Dieu, « Oh Seigneur, donne-moi l'enfant, etc. » Non, vous savez comment je priais? J'ai levé la voix et je célébrais, je disais « Seigneur, ah, je te bénis pour les cris et les joies que j'entends dans ma maison pour cet enfant. Elle va me faire rire, cet enfant, quand elle va venir. Elle va me faire rire, et c'est le cas, elle me fait rire. Demandez à ma femme, quand je suis avec mon enfant, je suis un vrai gaga. Je me roule par terre, je joue comme pas possible et je lui consacre du temps tous les jours. Et je visualisais cet enfant courir dans la maison. Je n'avais pas besoin de prier, je savais que l'enfant était là. Et quand on me posait la question, où est l'enfant? Je dis, l'enfant est là. Sauf que vous ne le voyez pas, mais il est là. Et je sais que la victoire est déjà acquise. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Amen. Oh oui. Dans la saison de la conquête des promesses, comment créer une atmosphère de louange propice à la manifestation de la foi et de la gloire de Dieu dans ta vie? Je vais simplement nous donner deux conseils pour finir. Le premier conseil, quand tu t'apprêtes à célébrer, célèbre les promesses écrites de Dieu à ton sujet, contenues dans l'alliance en Christ. Tu regardes à ta situation, tu vas chercher dans la Bible et tu prends la promesse, c'est-à-dire le verset biblique inscrit dans la Bible qui concerne ta situation. Tu le prends et tu l'inscris sur un papier. Tu l'affiches sur un mur et tu dis, Seigneur, cette promesse-là, elle est accomplie de ma vie au nom de Jésus. Et tu commences à danser. Tu danses. Amen. Le deuxième conseil, c'est construire une habitation de Dieu dans ta vie par la louange et l'adoration. Qu'est-ce que j'entends par construire une habitation? C'est-à-dire, assure-toi qu'il y ait toujours cette atmosphère. Quand tu es à la maison, qu'il y ait tout le temps de la musique. Quand tu es dans la voiture, même si tu peux écouter autre chose, mais assure-toi de toujours rester dans cette atmosphère-là. Tu prends la parole, tu prends la promesse contenue dans l'alliance, tu la prononces, tu la rappelles à Dieu. Tu la rappelles. Tu ne pries pas en désordre. Tu ne pries pas, au Seigneur, merci, merci, merci. Non, tu ne pries pas comme ça. Tu prends la parole, même s'il faut que tu la lises, et tu dis, Seigneur, je te rappelle ça. C'est ce que tu as déclaré à mon sujet. Car il dit dans le livre d'Ésaïe, viens et plaidons. Tu te tiens comme un avocat en disant, il est écrit dans le code civil, il est écrit dans la constitution du royaume des cieux, ceci à mon sujet, qu'il fait de la stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il fait de l'indigent, c'est-à-dire le pauvre et l'indigent, il le fait asseoir à la table des grands. Seigneur, je te rends grâce parce que aujourd'hui peut-être ma situation laisse à désirer, mais je te rends grâce parce que je sais que demain tu me fais asseoir à la table des grands et je célèbre cela. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et il y avait deux personnes dans la Bible appelées Paul et Silas. Paul et Silas ont été capturés un jour après avoir annoncé l'évangile. Ils étaient persécutés et ils ont été mis en prison. Et on leur avait dit qu'à minuit, vous êtes morts. À minuit, on vous coupe les têtes, Paul et Silas. Et ils le savaient. Ils étaient enchaînés en prison, la Bible nous dit. Enchaînés. Et dans le livre de Actes, chapitre 16, au verset 24, il est écrit ceci. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, est-ce qu'on peut dire avec moi, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quand tu célèbres Dieu, tu ne t'en rends même pas compte, mais Dieu est en train de régler le problème. Et ce que Dieu te demande, ce n'est pas de t'attrister. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de pleurer. Ce que Dieu te demande, c'est de célébrer. C'est de rester dans un esprit de louange, d'adoration, de revêtir ce vêtement. Et à la conquête des promesses, tout au long de cette année 2014, telle est l'attitude dans laquelle nous devons être. Toujours rempli d'assurance. Rester dans cet esprit de célébration, dans cet esprit de fête. Parce que nous sommes convaincus que Dieu a déjà tout accompli à la croix. Amen. On va incliner la tête. Et tu vas élever la voix simplement pour dire au Seigneur, non seulement merci, mais tu vas aussi lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que, tout simplement, parce que j'ai fait le choix de célébrer, je te rends grâce parce que, tout simplement, mon Dieu, je sais. Seigneur, merci, à toi soit toute la gloire et la louange. Béni sois-tu, j'élève encore, ô Dieu, mes mains dans le sanctuaire pour te célébrer, pour, Seigneur, te dire simplement, l'atmosphère de louange, assurément, est ce que je dois, c'est ce que je dois cultiver autour de moi. Merci, Seigneur, pour les promesses. Merci, Père, parce que la victoire m'est garantie. Je te bénis, Père, parce que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, je te rends grâce parce que tu es au contrôle, Seigneur. Et Seigneur, tu ne me dis pas de prier, tu ne me dis pas de jeûner, tu me dis de célébrer, tu me dis de faire la fête, de célébrer la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque symbolise simplement le sacrifice que Christ a opéré à la croix. Et à la croix, la victoire a été totale. Elle n'a pas été partielle, elle a été totale. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Guérison, Seigneur. Quel que soit le domaine, guérison, prospérité, financier, spirituel, familial. Seigneur, quel que soit les domaines de notre vie, Seigneur, tu as tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te dis simplement merci. Merci pour l'accomplissement des promesses. Merci pour la conquête des promesses. Merci parce que nous avons choisi de nous consacrer. Nous avons choisi de nous circoncire, de circoncire nos cœurs. Et maintenant, nous choisissons de célébrer. Merci Seigneur pour la célébration de la Pâque. Merci parce que dans la célébration, dans l'atmosphère de la louange, Seigneur, tu règles les problèmes. Tu règles tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de problème plus grand que toi. Seigneur, aucun problème, aucune montagne ne peut se tenir devant nous. Qui es-tu, Zorobabel, pour te tenir devant moi? Car l'Éternel est ma forteresse, l'Éternel est ma force. Oui, je bénis le Seigneur et sa louange est toujours dans ma bouche. Je me réjouis en lui car il est ma forteresse. Je me réjouis en lui car il est le soutien de ma vie. Il tient ma vie entre mes mains. Il est celui qui me garantit de la chute et il est celui qui m'assure mon lot. Oui, mon avenir est assuré car il dit, je connais le projet que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et je te dis tout simplement merci. Merci pour ta grâce. Et acclamez le Seigneur.
espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.